Vous écoutez On lit pour vous. Les algues, un carburant d'avenir? Un texte de Mathieu Perrault paru le 14 juin 2026 dans la presse. Un lecteur, Henri Orban, demande « Est-il possible de fabriquer du pétrole à partir de carbone issu d'algues? » C'est théoriquement possible, mais pour le moment, ce biocarburant coûte trop cher pour être concurrentiel. Il y a eu beaucoup d'engouement pour la production de carburant avec les algues il y a une vingtaine d'années, mais les coûts demeuraient trop élevés, explique Bogumil Karas, un biologiste moléculaire de l'Université Western Ontario, qui a publié sur le sujet en janvier dans Nature Communication. Les algues peuvent être transformées en carburant par le même procédé chimique qui permet de tirer de l'éthanol du maïs. L'avantage des biocarburants est que la croissance du végétal utilisé capture du CO2 atmosphérique. Lors du premier choc pétrolier en 1973, les États-Unis ont lancé une pléthore de projets de recherche en carburant de rechange. L'un d'entre eux prévoyait la production de biocarburants à partir d'algues dans des bassins attenant à des usines de filtration d'eau sur la base de travaux de pionniers californiens de l'utilisation des bactéries pour le traitement des eaux. Le projet a toutefois été abandonné en 1996. Il y a eu un autre boom d'investissement il y a 20 ans avec les premiers progrès du génie génétique, mais ça n'a pas marché non plus, dit M. Karas. Génie génétique. L'avènement du génie génétique pourrait faire baisser les coûts de production du biocarburant à base d'algues, selon M. Karas. Celui-ci a travaillé 15 ans à l'Institut Craig Venter à San Diego, un haut lieu de la recherche privée sur le génie génétique. Dans Nature Communication, M. Karas expose par exemple une manière beaucoup plus efficace de transformer le génome des diatomées qui représentent 20% des algues de la planète. On parvient à être 10 000 fois plus efficace, dit le chercheur ontarien, et on peut transférer plus de gènes à la fois. Cette avancée a été rendue possible par un procédé qui imite le vieillissement des cellules des diatomées. Les vieilles cellules absorbent mieux l'ADN parce que leurs parois sont plus poreuses, dit M. Karas, et nous avons trouvé une manière de faire entrer dans les cellules plusieurs fragments d'ADN d'autres organismes en même temps. Depuis la publication dans Nature Communication, plusieurs sociétés de biocarburants ont contacté les chercheurs de Western Ontario. Notre but est d'utiliser les algues pour faire des médicaments, de la nourriture et des carburants, mais nous dépendons d'autres groupes pour appliquer notre technologie. Cela dit, nous attendons une réponse pour une demande de subvention de 30 millions aux États-Unis qui nous permettra de faire certains tests pratiques, peut-être dans le domaine des biocarburants. En savoir plus. Source : Département américain de l'énergie. Production mondiale en 2025. Éthanol, 750 millions de barils. Pétrole, 30 milliards de barils. C'était « Les algues, un carburant d'avenir », un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 juin 2026 dans la presse.
Un gigantesque dragon des mers, vieux de 180 millions d'années, découvert au Royaume-Uni. Un texte de la rédaction de Futura, paru le 16 juin 2026 dans Futura Science. 180 millions d'années sous nos pieds. Un fossile d'ichthyosaure colossal vient d'être mis à jour en Angleterre. Et il redessine ce que l'on croyait savoir sur ces reptiles marins préhistoriques. Une découverte qui a fait trembler le monde de la paléontologie britannique. Cette découverte a eu lieu en février 2021, mais si vous êtes passé à côté, elle mérite largement qu'on en reparle. Des restes fossilisés d'un ichthyosaure géant ont été mis au jour à Rutland Water, dans les Midlands de l'Est anglais. Identifié comme le spécimen le plus exhaustif et le plus imposant jamais trouvé au Royaume-Uni, ce fossile de 10 mètres de long représente une avancée majeure pour la paléontologie. Ce n'est pas un simple os isolé. C'est une fenêtre ouverte sur un monde marin disparu depuis des dizaines de millions d'années. Tout commence lors d'une opération banale. Joey Davis, agent de conservation pour le Leicestershire and Rutland Wildlife Trust, effectue un drainage de routine d'une île lagunaire dans le cadre d'un réaménagement paysager. C'est là, dans la boue, qu'il tombe sur les premières pièces du fossile. Sa réaction résume tout. Cette découverte est absolument fascinante et constitue un point culminant de ma carrière. C'est formidable de penser que cette créature étonnante nageait autrefois dans les mers au-dessus de nous. Un sentiment que beaucoup de passionnés de préhistoire comprennent immédiatement. Le fossile appartient à un ichthyosaure, un reptile marin qui peuplait les océans à l'époque des dinosaures. Contrairement à ce que son surnom de « dragon des mers » laisse imaginer, l'animal ressemblait davantage à un dauphin géant qu'à un monstre fantastique. Certaines espèces pouvaient pourtant atteindre 25 mètres de long, ce qui en faisait l'un des plus grands prédateurs marins de leur époque. Les ichthyosaures étaient des reptiles marins ayant vécu entre 250 et 90 millions d'années avant notre ère. Leur taille pouvait atteindre plus de 25 mètres de long et leur silhouette rappelait celle des dauphins. La découverte de ce squelette exceptionnellement complet constitue le premier spécimen britannique identifié comme appartenant à l'espèce Temnodontosaurus trigonodon. Voici ce qui rend ce spécimen particulièrement remarquable. Les ichthyosaures se sont éteints il y a environ 90 millions d'années, bien avant la grande extinction des dinosaures. Leurs grands yeux et leurs longues dents leur ont valu leur réputation de « dragon des mers » dans l'imaginaire populaire. Trouver un ichthyosaure en Angleterre n'est pas une première absolue. Dès le début du 19e siècle, la paléontologue autodidacte Mary Anning avait déjà exhumé les premiers spécimens connus sur les falaises de Lyme Regis dans le Dorset. Elle est aujourd'hui considérée comme l'une des figures fondatrices de la paléontologie mondiale. Deux siècles plus tard, la discipline avance toujours. Ce nouveau fossile géant prouve que le sol britannique recèle encore des trésors insoupçonnés, parfois à quelques mètres sous des zones aménagées. Pour les scientifiques, chaque spécimen complet est une aubaine rare. Les ossements permettent de reconstituer le comportement, le régime alimentaire et l'écologie d'une espèce disparue avec une précision impossible à partir d'un fragment isolé. Si vous souhaitez approfondir le sujet, le Natural History Museum de Londres propose des ressources accessibles sur les reptiles marins préhistoriques et les grandes découvertes paléontologiques britanniques. Une bonne porte d'entrée pour comprendre à quel point notre sous-sol garde encore la mémoire du vivant. C'était un gigantesque dragon des mers, vieux de 180 millions d'années, découvert au Royaume-Uni. Un texte de la rédaction de Futura, paru le 16 juin 2026 dans Futura Science.
Le milieu du livre se mobilise pour le maintien d'une enveloppe dédiée. Un texte de Jean Siag, paru le 10 juin 2026 dans La Presse. Une pétition de 17 000 noms, parrainée par le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, a été déposée à l'Assemblée nationale le mercredi 10 juin 2026. Les signataires demandent à la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, de maintenir une enveloppe budgétaire unique pour l'achat de livres dans les écoles. Une demande appuyée par l'ensemble du milieu du livre. La ministre Sonia Lebel avait pourtant eu de bonnes nouvelles à transmettre. Son gouvernement a annoncé l'injection d'une somme de 24,1 millions sur 3 ans, 8 millions par année, pour permettre aux écoles secondaires du Québec de renouveler leurs bibliothèques. On parle de plus d'un million de livres neufs d'ici 2029. La réforme administrative de la ministre prévoit cependant la création d'une enveloppe globale baptisée « Projet pédagogique particulier, activités sportives, culturelles et sociales ». La ministre Sonia Lebel a justifié ce choix par une volonté d'offrir une plus grande flexibilité aux centres de services scolaires. Sauf que, ce faisant, les sommes destinées aux livres ne seront plus garanties après la première année et pourraient servir à d'autres dépenses. Dans ce contexte, comment s'assurer que les 16 millions restants pour les deux autres années serviront à l'achat de livres? Lors des débats en début de semaine, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, visiblement mal à l'aise, a admis qu'il s'agissait d'une décision qui relève du ministère de l'Éducation, mais qu'il allait s'assurer qu'on continue d'acheter des livres dans nos écoles. Dans une déclaration écrite envoyée à la presse, l'attachée de presse de la ministre Sonia Lebel, Marilyn Lehouillé, a affirmé que les gestionnaires allaient tout de même être tenus responsables de leur décision. Les sommes seront rendues disponibles aux centres de services scolaires qui seront responsables d'effectuer les achats en fonction des besoins de leurs élèves, a-t-elle précisé. L'utilisation de ces fonds sera encadrée par un regroupement budgétaire assorti d'objectifs, d'une reddition de comptes et d'attentes signifiées aux directeurs généraux des CSS à titre de titulaire d'emploi supérieur. Crainte chez les libraires. Les librairies indépendantes, les éditeurs et les auteurs, eux, craignent une baisse des achats par les écoles. Déjà en 2025, le bilan Gaspard, qui comptabilise les données brutes recueillies par la Société de gestion de la Banque de titres de la langue française, a noté une baisse de 10 % des ventes de livres jeunesse aux directions d'écoles et aux bibliothèques, nous dit la présidente de l'Association des libraires du Québec, Laurence Monnet. On parle d'environ 250 000 livres qui ne se sont pas rendus dans nos écoles. C'est que pour garnir les rayons de leur bibliothèque, les directions d'école ont l'obligation de s'approvisionner auprès de librairies agréées de leur région administrative. Une étude, commandée par l'Association des libraires du Québec, réalisée par la firme MCE Conseil ce printemps, indique par ailleurs que les ventes aux écoles et aux bibliothèques municipales représentent en moyenne 36 % du chiffre d'affaires des librairies indépendantes. Plus de 88 % des librairies considèrent ces ventes comme essentielles à leur viabilité. Ce sont des revenus importants qui ont sauvé le monde du livre au Québec, poursuit Laurence Monnet. La lecture est un enjeu à part entière, surtout avec le défi que représente la lecture aujourd'hui pour nos jeunes. C'est comme apprendre une nouvelle langue, ça demande beaucoup d'efforts. Le livre ne doit jamais être en compétition avec d'autres secteurs, comme le sport ou les activités sociales. Mais le ministère de l'Éducation défend le principe de décentralisation réclamé, selon lui, par le milieu scolaire. On ne peut pas constamment demander au gouvernement de décentraliser les décisions vers le terrain et tenir pour acquis que les décisions prises par les écoles seront néfastes, indique l'attaché de presse Marilyn Lehouillé. Il faut être conséquent. Voulons-nous un ministère qui fait de la microgestion ou des écoles qui ont les moyens de prendre les meilleures décisions pour leurs élèves? Le milieu du livre, dont l'Association nationale des éditeurs de livres et l'Union des écrivaines et écrivains du Québec, ainsi que les partis de l'opposition considèrent la lecture comme un enjeu distinct. Ils réclament le maintien d'une enveloppe budgétaire unique pour l'achat de livres. À quoi bon faire des annonces comme celle-ci s'il n'y a aucune garantie que ces sommes serviront à acheter des livres, insiste Laurence Monnet. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on demande depuis des années. On veut protéger les livres, encourager la lecture, mais si on laisse le choix aux directions d'école, malheureusement, on l'a vu dans le passé, quand il faut choisir, le livre est souvent la première chose qui passe à la trappe. C'était « Le milieu du livre se mobilise pour le maintien d'une enveloppe dédiée », un texte de Jean Siag, paru le 10 juin 2026 dans la presse.
Récit d'une famille inoue. Une chronique de Marie-Lie Chen, parue le 3 juin 2026 dans le Franco. Pour ma deuxième chronique littéraire, j'ai décidé de présenter deux romans, indissociables selon moi. L'auteur, Michel Jean, écrivain inoue, chef d'antenne et journaliste, a écrit deux romans racontant l'histoire de sa famille, des inoues nomades au début du XXe siècle, par la suite confinés à une réserve. Le premier s'intitule « Kukum », paru en 2019 aux éditions Libre Expression. Il raconte l'histoire de son arrière-grand-mère. Le deuxième est « Atouk, elle et nous », d'abord paru en 2012, puis reparu en 2021 aux éditions Libre Expression. Il raconte l'histoire de sa grand-mère maternelle et la sienne au travers. Ce sont des romans à la fois historiques et autobiographiques. Dans « Kukum », qui veut dire « grand-mère » en Inu Omun, on suit la vie d'Almanda Siméon, une femme blanche, et l'arrière-grand-mère de l'auteur, à partir de sa rencontre avec Thomas Siméon, un Inu nomade. Nous sommes au début du XXe siècle. Le camp Siméon vit à Pointe-Bleue, Mashtuyach aujourd'hui, l'été, sur les rives du lac Saint-Jean, et suit la migration des gros gibiers dès l'automne pour remonter sur leur territoire de chasse et s'y installer pour l'hiver. Almanda, en épousant Thomas, devient une Inu à part entière, et elle apprend comment vivre comme eux, comment accomplir les tâches de la vie quotidienne, comment contribuer au clan en tant que femme, puis comme mère, et éventuellement comme grand-mère. Peu à peu, les progrès de l'homme blanc poussent les Inuits à vivre dans la sédentarité à Pointe-Bleue, et ce faisant, perdre leur raison d'être. Dans Atouk, elle et nous, on suit l'histoire de Jeannette Gagnon, née Siméon, la deuxième fille d'Almanda et de Thomas, et la grand-mère maternelle de l'auteur. Les chapitres sont séparés en elle, quand c'est Jeannette qui fait la narration, et lui, quand c'est l'auteur. Contrairement à sa mère blanche qui a épousé un Inou et est elle-même devenue une Inou, Jeannette épouse un homme blanc et perd d'un coup son statut d'Indien et sa communauté. Les principaux thèmes dans ces deux livres, qui forment un tout, sont la famille, l'amour et le sentiment d'appartenance, mais aussi des injustices sociales, la quête d'identité et le besoin de liberté. Dans les deux livres, on écrit au jeu. Dans Kukum, c'est Almanda qui fait la narration, parfois jeune, parfois vieille. Dans Atouk, elle et nous, on alterne entre Jeannette et Michel. Cela confère un aspect très intimiste au texte. L'auteur a un style d'écriture bien à lui, très imagé, avec plein de figures de style et du vocabulaire élaboré, mais accessible à la fois. Vous l'aurez deviné, j'ai adoré ces deux romans que j'ai dévorés du début à la fin. J'ai d'abord été charmée par le style d'écriture, puis par les descriptions des lieux, où je pouvais m'imaginer, et par les personnages, plus grands que nature, qui ont réellement existé. J'ai aussi été transportée par une gamme d'émotions, allant de l'excitation à la tristesse, en passant par la colère et le sentiment d'injustice. Ce sont deux romans captivants qui plairont à celles et ceux qui s'intéressent à la culture Inu, mais aussi à celles et ceux qui aiment tout simplement l'aventure et les romans historiques. C'est Atouk, elle et nous, qui a paru en premier dans les faits, puis Kukum, mais je trouve pertinent de commencer par ce dernier pour respecter l'ordre chronologique en découvrant d'abord l'histoire d'Almanda et de Thomas. C'était « Récit d'une famille Inu », une chronique de Marie-Lie Chen, parue le 3 juin 2026 dans le Franco.
Le poisson qui se faufile. Un texte d'Alexis Riopel paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science. Printemps 2024, lac des Deux Montagnes. Un pêcheur fait voler un drone au-dessus de la baie de Vaudreuil. De colossales silhouettes sombres, longues de plus d'un mètre, attirent son attention. Il n'a jamais observé de tels poissons au Québec, mais les reconnaît rapidement, vu leur réputation sulfureuse. Ce sont des carpes de roseau, l'une des quatre espèces de carpes asiatiques qui envahissent l'Amérique du Nord. D'où proviennent ces poissons? tentons de remonter leurs pistes. Originaires d'Asie, ces quatre espèces de carpes, soit à grosse tête, argentées, de roseaux et noires, sont voraces. Et c'est pour cette raison que ces espèces ont été introduites dans le sud des États-Unis à partir de 1963. Leur mission? Dévorer les plantes et les animaux indésirables dans les piscicultures. À l'époque du livre « Silent Spring » de Rachel Carson, on y voyait une solution écologique pour remplacer les pesticides. Mais les carpes asiatiques se sont échappées des bassins et ont même été sciemment relâchées en nature, si bien qu'elles se sont établies dans le bassin hydrographique du Mississippi. Au fil des décennies, elles sont montées vers le nord, perturbant les écosystèmes, engloutissant les espèces indigènes. Certains segments de la rivière Illinois, près de Chicago, abritent aujourd'hui plus de 1700 carpes par kilomètre. En théorie, ces poissons n'auraient jamais pu atteindre le fleuve Saint-Laurent, qui ne communique pas avec le Mississippi. Mais au début du 20e siècle, pour combattre le choléra et la typhoïde, les autorités de Chicago ont décidé d'inverser le courant d'une rivière pour rediriger les égouts vers le sud, loin des grands lacs. Le nouveau système de canalisation, servant aussi aux navires, connectait ainsi les deux bassins hydrographiques, aussi bien dire deux mondes. Heureusement, une barrière électrique a été installée en 2002, juste avant que les carpes conquérantes n'atteignent le lac Michigan. Depuis des années, on organise aussi de fastueuses pêches pour réduire le nombre de carpes en amont du passage. Et pour rendre la brèche aussi infranchissable que possible, les États-Unis ont entamé la construction de nouveaux systèmes de barrières, électriques, acoustiques et à bulles, à $1 milliard. Pour l'instant, les blocages sur la rivière inversée tiennent le coup. Les carpes du lac des Deux-Montagnes ne sont vraisemblablement pas passées par là. Mais il faut dire que même si les grands lacs sont essentiellement épargnés par la conquête carpienne, une petite population de carpes de roseau, l'espèce herbivore du quatuor, s'est établie dans le sud-ouest du lac Érié, très loin des canalisations de Chicago. Les spécialistes croient qu'elle découle d'une introduction directe de carpes fertiles, même si cela est interdit par la loi. Les carpes observées au Québec ont-elles parcouru les 1000 kilomètres depuis le foyer de population du lac Érié? Sinon, d'où arrivent-elles? Pour éclaircir le mystère, j'en ai discuté avec Annick Drouin, la responsable du dossier au ministère de l'Environnement du Québec. Cette biologiste m'a expliqué que juste après le signalement de 2024, trois spécimens ont été capturés par le ministère. Les poissons étaient tous triploïdes, c'est-à-dire rendus stériles par une manipulation sur les œufs qui produit un défaut génétique. Une analyse chimique de leurs otolithes, un os auriculaire, a aussi confirmé qu'ils avaient été élevés en captivité dans le sud des États-Unis, puis ensemencés dans un nouvel environnement. Cela veut dire que ces trois carpes, âgées d'une vingtaine d'années, sont des agents de biocontrôle en cavale. Il faut préciser que de nombreux États américains, dont celui de New York, permettent d'utiliser des carpes de roseaux stérilisées pour contrôler des plantes aquatiques. Au Canada, cette pratique est interdite. Plus précisément, le ministère croit que les trois poissons proviennent d'un petit plan d'eau près du lac Champlain, le lac Augure, où des milliers de carpes stérilisées ont été introduites depuis 1998 afin de combattre la myriophylle aipi, une plante aquatique envahissante. C'est sûr qu'il y a eu des échappées, soutient Annick Drouin. Du lac Champlain, les carpes auraient dévalé la rivière Richelieu jusqu'au fleuve Saint-Laurent. La conclusion de cette mini-enquête est rassurante. Tant que les carpes de roseaux repêchées au Québec sont stériles, et tous les spécimens repêchés jusqu'à présent dans la province l'étaient, sauf un poisson en 2016, on peut affirmer que la grande invasion n'a pas encore commencé. À long terme, la population du lac Érié risque toutefois d'étendre son emprise vers le système laurentien. Pour l'instant, la situation est en équilibre, Selon le professeur d'écologie ichtyologique Olivier Morissette de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais cet équilibre est fragile et probablement temporaire. C'était « Le poisson qui se faufile », un texte d'Alexis Riopel paru le 19 juin 2026 dans le magazine Québec Science.
Un homme violent envers sa compagne est interdit d'entrer dans deux municipalités. Un texte de La Presse canadienne, paru le 17 juin 2026 sur le site ICI, Terre-Neuve et Labrador. Un juge a interdit à un homme de se rendre dans deux localités de l'ouest de Terre-Neuve dans le cadre d'une ordonnance de probation, car il craint que cet homme ne porte gravement atteinte à son ancienne compagne. Dans une décision écrite, le juge Wayne Gorman, de la Cour provinciale, reconnaît que le bannissement a une longue et terrible histoire dans notre common law. Toutefois, le juge Gorman a précisé que l'homme a ignoré les ordonnances lui enjoignant de rester à l'écart de la femme et que le bannissement pourrait être le seul moyen de protéger les victimes d'un comportement effrayant, persistant et obsessif. Ces commentaires figuraient dans une décision sur la peine datée du 12 juin concernant un homme reconnu coupable de 7 infractions, y compris 2 commises à l'encontre de son ancienne partenaire dont le nom n'est pas divulgué dans le document. L'homme, identifié uniquement par les lettres DM dans la décision du juge Gorman, a plaidé coupable des infractions, parmi lesquelles figuraient le harcèlement criminel, les menaces et 2 violations d'une ordonnance de mise en liberté conditionnelle lui imposant de rester à l'écart de la femme. Le juge a condamné l'homme à 12 mois de prison et à 3 ans de liberté conditionnelle, assorti de la condition de ne pas pénétrer dans 2 localités sans l'autorisation écrite d'un agent de probation. Ce n'était ni la première condamnation, ni la première peine prononcée à l'encontre de cet homme pour des crimes impliquant son ancienne compagne. Le juge Gorman a précisé qu'il l'avait condamné l'année dernière à 9 mois de prison pour une agression extrêmement violente contre la femme et pour avoir enfreint les ordonnances lui interdisant de s'approcher d'elle et de ses filles. Cette peine et la mesure de probation qui l'accompagnait n'ont pas protégé la femme ni ses filles, a écrit le juge Gorman. Les ordonnances judiciaires ultérieures n'ont eu aucun effet sur les agissements de DM. Cette persistance est effrayante et nous ne devons pas ignorer ce que notre expérience nous enseigne quant à la tournure que cela pourrait prendre. C'était « Un homme violent envers sa compagne est interdit d'entrer dans 2 municipalités ». Un texte de La Presse canadienne paru le 17 juin 2026 sur le site ICI Terre-Neuve et Labrador.